Zavili.
Dans l'actualité, un premier soldat français mort dans la guerre au Moyen-Orient qui a déjà fait plus de 2000 victimes. La France veut éviter l'engrenage du conflit. Son président a réaffirmé une posture défensive. On revient sur l'attaque au Kurdistan irakien qui a aussi blessé 6 militaires de l'armée française. Alors que la guerre au Moyen-Orient continue, Donald Trump estime qu'un changement de régime par le peuple en Iran arrivera, mais peut-être pas immédiatement. Le président iranien, de son côté, accuse Israël et les États-Unis de vouloir désintégrer son pays. Un conflit dans la région qui ne doit pas mettre de côté la guerre en Ukraine pour les soutiens de Kiev qui, malgré tout, viennent d'enregistrer un échec ce matin. La Hongrie s'oppose à de nouvelles sanctions contre la Russie. Dans l'actualité également, Cuba menacée par Donald Trump. La crise énergétique s'est accentuée ces dernières semaines sur l'île à cause du blocus états-unien sur le pétrole. Le président cubain a reconnu ce vendredi pour la première fois que son gouvernement était en discussion avec l'administration Trump. Au Moyen-Orient, aucun signe d'apaisement, bien au contraire. Donald Trump vient d'affirmer que les États-Unis vont frapper l'Iran très fort au cours de la prochaine semaine. Pas de quoi intimider les dirigeants iraniens qui, pour certains, et le président notamment, ont participé ce matin à une manifestation en pleine rue malgré des bombardements en cours. Bombardements qui s'intensifient comme au Liban d'ailleurs, que le ministre de la Défense israélien a menacé ce vendredi de faire payer un prix croissant en destruction jusqu'à ce qu'il désarme le Hezbollah. Le président libanais Joseph Aoun, lui, veut négocier, mais assure ne pas avoir reçu de réponse de la part d'Israël. C'est ce qu'il a en tout cas assuré au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite à Beyrouth, qui lui exhorte Israël et le Hezbollah à stopper la guerre et à réunir 200 25 millions de dollars. La communauté internationale donc pourrait aider le Liban. Sera-t-il le cas de la France, l'extension du conflit après la mort d'un premier soldat français? Non, assure le président. Il a réaffirmé ce vendredi une posture purement défensive après l'attaque de drones hier au Kurdistan irakien qui a donc fait un mort et 6 blessés des militaires qui formaient les Kurdes sur place dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. Les autorités françaises n'ont pas désigné les responsables de l'attaque, mais un groupe armé irakien pro-iranien, Asra Belkaf, a confirmé ce matin prendre pour cible tous les intérêts français en Irak et dans la région en raison du déploiement du porte-avions français Charles de Gaulle dans le Golfe. Une question se pose, la base militaire française d'Erbil était-elle suffisamment protégée, Franck Alexandre?
Sur la base militaire d'Erbil au Kurdistan irakien, le détachement français n'est pas très étoffé. Quelques dizaines d'hommes dédiés à la formation dans le cadre d'une coalition anti-djihadiste. Néanmoins, toute base sur un théâtre d'opération potentiellement dangereux doit être protégée et disposer de systèmes d'alerte. L'effet de surprise n'est pas permis, rappelle Jean-Marc Tanguy d'Air et Cosmos.
S'ils ont été surpris, c'est qu'ils n'ont pas eu d'alerte. S'il n'y a pas eu d'alerte, dans ce cas-là, c'est qu'il y a une forme de déficit. S'ils ont eu l'alerte, mais qu'ils n'ont pas pu se protéger, c'est pas mieux non plus. Ça, c'est pour la partie détection et protection immédiate. Ensuite, pour se protéger d'une menace, on peut l'intercepter avant qu'elle arrive jusqu'à vous. Et là, manifestement, la France n'a pas déployé, et apparemment les alliés non plus, d'instruments qui permettent de faire ça. Quel type d'instrument? Ça peut être des missiles solaires, ça peut être un avion ou un hélicoptère. Le problème du Shahed, c'est qu'il peut voler très haut et piquer subitement. Et c'est vrai que c'est un mode d'action qui n'est pas forcément adapté à tous les moyens d'interception qu'on peut avoir, pour autant qu'on les ait.
Alors qu'Emmanuel Macron a insisté ces derniers jours sur le rôle défensif de la France dans la guerre au Moyen-Orient, la question se pose, à Erbil, y a-t-il eu un trou dans la raquette?
Les 6 blessés sont toujours à l'hôpital. Leur rapatriement en France se met en place, selon le président français qui s'exprimait en marge de la visite de Volodymyr Zelensky à l'Élysée. Il a aussi minimisé la portée de la levée temporaire des sanctions américaines sur le pétrole russe dans le but annoncé de limiter les effets de la fermeture du détroit d'Ormuz. Le président ukrainien, donc en France ce vendredi, après la Roumanie hier, l'Espagne demain. Une tourner pour éviter que le conflit au Moyen-Orient relègue la guerre en Ukraine à l'arrière-plan et continuer de mobiliser ses soutiens. Kiev attend un prêt de 90 milliards d'euros promis par les dirigeants européens, mais bloqué par la Hongrie qui, ce matin, s'est par ailleurs opposée avec la Slovaquie à de nouvelles sanctions contre Moscou. Pierre de Benazé.
Les 19 trains de sanctions décidés depuis février 2022 par l'Union représentent la pierre angulaire du soutien européen à l'Ukraine et leur efficacité est d'ailleurs prouvée par les multiples tentatives du Kremlin pour essayer d'obtenir leur levée. Or, ces sanctions doivent être renouvelées tous les 6 mois à l'unanimité pour pouvoir rester en vigueur et l'échéance approche puisque c'est en théorie pour ce dimanche, le 15 mars, que la prolongation doit être actée. La Hongrie, épaulée par la Slovaquie, continue son chantage pétrolier et prend ses sanctions en otage dans le but d'imposer à l'Ukraine la réouverture de l'oléoduc Droujba, endommagé en janvier par une frappe russe. Dans ce contexte, la décision ce jeudi des États-Unis d'assouplir unilatéralement leurs sanctions pétrolières contre la Russie a sûrement enhardi la Hongrie, alors que cette décision américaine est dénoncée par le chancelier allemand et par le président du Conseil européen. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Les chefs de gouvernement allemands, canadiens et norvégiens sont eux dans l'Arctique norvégien ce vendredi pour discuter de la sécurité régionale face à la menace russe en plein exercice de l'OTAN, un exercice pensé pour apaiser Donald Trump qui jugeait nécessaire de s'emparer du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Les États-Unis ont pourparlers avec Cuba. Washington l'assure depuis des semaines. Le président cubain Miguel Díaz-Canel vient de le confirmer ce vendredi, dans une intervention devant les plus hautes autorités du pays, retransmise à la télévision nationale. Alors que l'île est confrontée depuis des mois à une grave crise énergétique accentuée par le blocus états-unien sur le pétrole, à La Havane, depuis une semaine, les concerts de casseroles sont quotidiens. Les explications de François-Damien Bourgerie.
Des responsables cubains ont mené récemment des discussions avec des représentants du gouvernement des États-Unis, a déclaré Miguel Díaz-Canel devant les plus hautes autorités du pays. Ces discussions, a indiqué le président cubain, ont eu pour objectif de chercher des solutions par la voie du dialogue aux différents bilatéraux qui existent entre les deux nations. Miguel Díaz-Canel ajoute que des facteurs internationaux ont facilité ces échanges sans préciser lesquels, mais hier, les autorités cubaines ont annoncé la libération prochaine de 51 prisonniers sous l'égide du Vatican, médiateur historique entre Washington et La Havane. Donald Trump assurait depuis des semaines que des négociations étaient en cours avec de hauts responsables de l'île. Le journal USA Today avait récemment indiqué qu'un accord économique serait même bientôt annoncé, des informations jusque-là démenties par La Havane. Alors que le président états-unien ne cesse de répéter que le régime cubain est sur le point de tomber, dans son intervention, Miguel Díaz-Canel a souligné que ses pourparlers devaient se tenir dans un respect mutuel.
En Équateur, l'état d'urgence nationale décrété pour 2 mois à cause de la saison des pluies qui depuis janvier a fait 11 morts et plus de 50 000 sinistrés. Le trafic aérien en Nouvelle-Calédonie paralysé, les aérodromes sont bloqués par des collectifs d'habitants qui refusent le déménagement de la compagnie qui assure la desserte locale Air Calédonie. Et aucune issue ne semble se dessiner dans l'archipel. Le dialogue avec les autorités est totalement bloqué. Les explications depuis Nouméa de Charlotte Manévi.
Les vols intérieurs atterrissaient jusqu'ici dans le centre de Nouméa, mais la compagnie publique en grande difficulté financière a décidé de déménager à l'aéroport international à 35 km de là pour faire des économies. Conséquence pour les usagers des 3 îles Loyauté et de l'île d'Épa qui veulent se rendre sur la Grande Terre où se trouve Nouméa, un prix du billet en hausse et un temps de trajet doublé. Le président du gouvernement Alcide Ponga gère directement le dossier et ne veut pas céder face au blocage. Il estime qu'annuler ou différer le déménagement coulerait purement et simplement la compagnie. Les habitants des îles n'ont pas non plus l'intention de bouger, d'autant que la desserte maritime est indigente. Un seul navire à passagers dessert les 4 îles et le trajet dure jusqu'à 6 heures. De toute façon, il ne transporte personne non plus en ce moment. En panne depuis plus d'une semaine, le bateau est indisponible pour encore 15 jours. Plusieurs voix se sont élevées pour s'inquiéter d'un pourrissement du conflit dans un pays où le transport aérien est un dossier explosif. En 2011, un précédent blocage lié au prix du billet avait fait 4 morts et 20 blessés. Charlotte Manvi, Nouméa, RFI.
Voilà pour ce journal Place aux bonnes pulsations du monde. Bonjour Hortense Vol.
Bonjour Elisa Vili.